Samuel 15, si je ne me trompe pas. Voilà, si vous voulez laisser votre Bible ouverte quelque part, ça sera plutôt à 1 Samuel 15. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que je vais refaire un petit résumé de ce qui a précédé. Donc au chapitre 15, on a vu que le prophète Samuel, après la première faute de Saül, va lui transmettre une mission de la part du Seigneur. Vous vous souvenez, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi le début, juste avant une bataille contre les Philistins, Saül avait offert les sacrifices à la place de Samuel, ce qui était formellement interdit. Par peur de la défaite, parce que ses soldats se dispersaient, il ne voulait plus attendre Samuel. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait trop confiance en lui? Après tout, il se disait « je suis le roi, allez hop, j'y vais ». Mais au lieu de se repentir, quand Samuel arrive, et c'est là le gros problème de Saül, il se justifie. Et il accuse les autres. La sentence ne tarde pas à tomber, tu n'auras pas de successeur sur ton trône. Ce qui est curieux, j'ai vérifié encore, je dis c'est quand même bizarre, il n'a pas réagi. Il n'y a aucun commentaire qui est rapporté de la part de Saül. C'était pourtant quelque chose qui comptait à l'époque. Je crois qu'à notre époque, on est beaucoup moins soucieux de ce que vont faire nos enfants, nos petits-enfants. C'est leur responsabilité. On vit dans une époque très individualiste. Bon, ils feront leur choix et puis voilà quoi. Mais à cette époque-là, c'était capital la descendance. Capital. C'était vraiment la première chose auquel les gens pensaient quand ils se mariaient ou voilà, c'était leur descendance. Alors ça, c'était vraiment un problème. Eh bien, curieusement, Saül ne bouge pas. Tu n'auras pas de descendance sur le trône. Jonathan donc sera pas roi. Pas de réaction. C'est assez bizarre quand même. C'était quand même une punition assez sévère pour l'époque en tout cas. Et quand on arrive au chapitre 15, on voit que Dieu laisse encore une chance à Saül. Et là, j'insiste là-dessus. Parce que parfois, on a tendance à voir dans l'Ancien Testament Dieu comme quelqu'un de très dur, de très sévère. Si on regarde de près les textes, ce n'est pas le cas. On voit encore une main tendue, une deuxième chance pour se racheter. Je dirais que c'est un peu l'examen de rattrapage. Saül est toujours roi et il lui donne une mission très claire. En gros, c'est attaque Amalek, frappe-le d'anathème, lui et tout ce qui lui appartient. Il y a des raisons historiques. Depuis 4 siècles, ils persécutaient, ils attaquaient Israël et ça allait de mal en pire. En plus, avec la mission, il va donner tous les détails de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Donc la mission est très claire. Alors ce qui m'avait frappé, ce sur quoi je voudrais insister encore aujourd'hui, c'est que Samuel, conscient de la désobéissance précédente, va insister sur un point qui va revenir encore après, c'est qui tu es. Et ça, c'est étonnant. Enfin, moi, je sais pas, vu la désobéissance précédente de Samuel, j'aurais été un peu rasoir et j'aurais dit, ouais, tu sais, la dernière fois, tu as désobéi, cette fois-ci, il faut que tu obéisses à Dieu, gna 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 gna. Et Samuel va pas du tout procéder comme ça. Il va insister sur qui tu es. Et avant même d'annoncer la mission de secours, j'allais dire la mission de rattrapage, il va commencer en lui disant, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction, afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que te dit le Seigneur. Et je me suis demandé pourquoi, parce qu'on va retrouver la même chose, on va le voir tout à l'heure, après la deuxième faute de Saül. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur le fait qui tu es, qui je suis, qui est Dieu? Alors c'est important, il commence en disant, qui est Samuel, qui je suis moi? C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te donner l'onction. Autrement dit, attention, je suis l'ambassadeur de Dieu. Et le prophète, à l'époque, était réellement un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et il précise bien, attention, écoute-moi parce que, attention, je suis l'ambassadeur de Dieu auprès de toi. C'est moi que Dieu a envoyé. Bon, après, il insiste sur le fait, qui est Dieu? Alors, celui qui a envoyé Samuel, bien sûr. Mais c'est lui qui a choisi le roi, c'est lui qui a donné l'onction. Et il lui rappelle autrement dit, attention, c'est Dieu qui donne les ordres. Tu es peut-être roi, mais tu es roi parce que Dieu t'a nommé roi. C'est ça que ça veut dire. Et puis, il va réinsister sur qui tu es, toi, Samuel. Tu es un homme choisi par Dieu. Saül. Tu es un homme choisi par Dieu. Dieu t'a oint. Ceci étant, ce n'est pas un mérite. Hein. C'est un choix de Dieu. Il n'était rien avant. Vous vous rappelez comment il s'était défini? Le plus petit de la plus petite tribu, Benjamin. Donc, il remet bien les choses en place. Après, il dit, quel est ton appel? Être roi sur le peuple de Dieu. Il lui dit, attention, ce n'est pas ton peuple. Alors évidemment, lu comme ça, dans une phrase, on ne se rend pas compte. Mais il faut bien se dire que tous les textes bibliques sont un résumé de tout ce qui s'est passé. C'est sûr que, connaissant les Juifs en plus, ça devait être beaucoup plus long que ça dans le dialogue. Mais il nous résume ce qu'il a dit, et c'est important, nous, de le décortiquer. Quel est ton appel numéro un? Être roi sur le peuple de Dieu. Fais gaffe, Saül, c'est pas ton peuple. C'est celui de Dieu. Il ne t'appartient pas. Et ça, c'est important de lui rappeler. Et enfin, il lui donne sa mission. Et on la lit au verset 3. Une fois que tout ça, c'est bien clair, qui tu es, qui est Dieu, qui je suis, moi, Samuel, quel est ton appel? Là, il va lui donner sa mission. Ainsi parle le Seigneur des armées, j'ai décidé de faire rendre des comptes à Amalek pour ce qu'il a fait à Israël quand il s'est mis sur son chemin, tandis que celui-ci remontait d'Égypte, où ils avaient massacré. Ils avaient vraiment été cruels envers ce peuple. Va maintenant, attaque Amalek, frappe d'anathème, tout! Et quand Dieu dit tout, c'est tout, ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu mettras à mort hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons et chèvres, chameaux et ânes, ça ne peut pas être plus précis. Donc il avait pris mille et une précautions pour dire ce qu'il devait faire, quelle était sa mission. Ça fait penser à ces missions impossibles, votre mission si vous l'acceptez. Voilà, c'est clair, sa mission était très très claire. Alors quand Dieu révèle à Samuel que Saül n'a pas exécuté cette mission, on avance un petit peu, c'était un petit retour en arrière, Samuel est désolé. Parce qu'il sent, c'était la deuxième chance, c'était l'examen de rattrapage. Il avait tout pour réussir, on lui avait tout bien expliqué, et il désobéit encore. Et quand Dieu parle à Samuel, donc c'est au verset 10-11, la parole du Seigneur parvint à Samuel, « Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi, et il n'a pas exécuté mes paroles. » Et là, pour Samuel, c'est dur. Il était tellement content de lui offrir une deuxième chance. Samuel est tellement dans la souffrance qu'il dit, enfin la Bible dit qu'il crie toute la nuit au Seigneur. Il souffre et il va faire tout, vous allez voir dans le texte qui suit, on a commencé à le voir la dernière fois, il va faire tout pour l'amener à reconnaître sa faute et à se repentir. Et ça c'est important de prendre conscience de ça. Quand quelqu'un fait une faute, il ne faut jamais s'imaginer que Dieu est là derrière lui, prêt à lui taper dessus. Il est là, devant nous, à tendre la main. Il faut bien avoir ça. Le diable va vous dire « Oh là là, Dieu va te punir et Dieu va faire ceci et Dieu va faire cela. » Mais la réalité, c'est qu'il est devant nous à nous tendre la main, à tendre les bras. Jamais derrière nous avec un bâton. Il faut bien faire attention aux images que le diable nous met en tête. Donc il va tout faire. Et je suis sûre que cette nuit-là, tout en criant, Samuel a réfléchi. « Comment je vais m'y prendre? Peut-être je peux encore le sauver. » Alors il va poser des questions. Malheureusement, les réponses de Saül sont complètement dans la justification. J'ai tout fait bien, quoi, en gros. Quand il voit qu'il se justifie, il se décide, il dit assez, ça va, tu t'es assez justifié, quoi. Je vais t'annoncer ce que le Seigneur a dit. Et là, on s'aperçoit, vous vous souvenez, on en a parlé la dernière fois, que il n'a pas le cœur de le faire. Assez, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit. Cette nuit. Puis, Saül dit, voilà, parle. Et il ne peut pas lui annoncer encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il recommence à lui poser des questions. Parce que Dieu fait tout, et Samuel est un bon exemple du Saint-Esprit aussi, qui fait tout pour nous racheter. Donc il repose des questions, au lieu de lui dire, maintenant Dieu m'a dit qu'il en avait assez de toi, il repose une série de questions. Et c'est là qu'on voit qu'il va revenir, ça doit être important quand même, il va revenir sur l'identité. Qui est qui? Parce qu'en fait, il sent que c'est le fond du problème. Qui est qui? Et alors on va voir, n'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël. Le Seigneur t'avait envoyé en disant, etc. Il va recommencer. Alors c'est une petite phrase, mais elle en dit long. Il revient sur l'identité. Qui tu es, Saül? Mais réfléchis, réfléchis à qui tu es. Tu étais petit autrefois. Tu étais petit à tes yeux. Et c'est là que Dieu est venu te chercher pour être roi. Tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Réfléchis. Tu étais petit, tu es devenu le chef. Il revient sur l'identité de Saül. Après, qui est Dieu? C'est lui qui t'a donné l'onction pour être roi. C'était un choix de Dieu. Tu étais un choix de Dieu. Et on peut s'appliquer ça à nous aussi. Dieu nous a choisis. Dieu nous a cherchés. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a tirés de la bouillasse. C'est lui qui t'a donné l'onction pour être roi sur Israël. Et je pense que ça avait du sens dans la tête de Saül. Attention, Saül, tu as été choisi pour être roi. Pas un suiveur du peuple. Mais le roi, très important, le chef des tribus d'Israël. Parce que quelque temps avant, dans sa justification, il a dit « Oui, oui, on entend les mugissements du bétail et tout ça, mais je sais qu'il fallait tout tuer, mais on les a amenés de chez les Amalécites, le peuple a épargné le meilleur, etc. » Le peuple. Attends, Saül, t'es supposé être le roi de ce peuple. T'es le chef des tribus, et il est supposé t'obéir, le peuple. C'est pas un argument de dire « Oh, c'est pas de ma faute, c'est le peuple. » C'est plus lourd de sens qu'on peut l'imaginer quand il lui dit « Tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi. » Là, c'est lourd, hein. Il t'a pas demandé de suivre le peuple, mais de le diriger. Donc, il rappelle encore des choses essentielles. Il va rappeler quel est son appel. « Tu es appelé à être roi. » Et puis, autrement dit, c'est Dieu que tu dois écouter et auquel tu dois obéir, sur son peuple. Quelle est ta mission? Tu devais faire la guerre aux Amalécites et les frapper d'anathème, c'est-à-dire extermination totale. Le rappelle encore. C'est bizarre, hein? En l'espace de quelques versets, on a deux fois cette notion. Qui tu es? Qui est Dieu? Qui je suis, moi, Samuel? Et quelle est ta mission? Et je pense que ce n'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que Samuel revient deux fois sur ce qui est qui? Parce que je pense que c'est à la base de notre vie chrétienne aussi. Dans les difficultés, on en a bien besoin de s'en rappeler. Et dans le succès, on a aussi bien besoin de s'en rappeler. Quand tout va chouette et qu'on est très content de nous, et quand tout va mal et qu'on n'est pas du tout content de nous, on a toujours besoin de se rappeler qui est Dieu, qui nous sommes déjà. Des pécheurs sauvés par grâce, des gens qui n'ont aucun mérite, prétendre au salut. On a été tiré de notre péché par Jésus. On est totalement dépendant de lui, même si apparemment on se débrouille très bien, surtout dans un pays occidental. Je pense qu'on n'en dirait peut-être pas autant si on était au fin fond de la campagne en Chine ou en Afrique ou dans certains coins d'Amérique du Sud. On ne serait peut-être pas aussi sûr de nous. Mais bon, on vit en Occident. Et on est quand même totalement dépendant de lui. On est vivant grâce à sa vie. Et on est aussi, on a de la valeur à cause de lui. Et puis on est aussi étranger, citoyen d'un royaume bien différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut se rappeler qui nous sommes. Et trop souvent, ce sont des facteurs qu'on oublie. Qui est-ce que je suis vraiment? Parce que dans notre vie occidentale particulièrement, on a un certain confort, on a une certaine sécurité, etc. etc. Et d'ailleurs, dès qu'il y a de nos sécurités qui vacillent un petit peu, ouh, tout le monde est dans la rue, hein. Ouh, sécurité de l'emploi, les retraites, le ci, le ça. Hein, parce que bon, c'est un dû. Mais il ne faut pas oublier que notre vraie sécurité, c'est quand même Christ. Hein. Savoir qui nous sommes, savoir qui est Dieu. Et ça, c'est tellement important. Son amour, sa bienveillance, son sacrifice, sa patience avec nous. Il règne, il tient tout dans sa main. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Alors là, on est d'accord pour qu'elle soit au-dessus, mais le problème, c'est qu'elle soit différente des nôtres. Dessus, oui, bon, mais souvent, ce n'est pas les nôtres. Qui est Dieu? Et on pourrait rallonger la liste, hein, mais c'est bon dans des moments comme ça de se rappeler, mais qui je suis? Qui est Dieu? Et quel est notre appel? Notre appel de base, c'est l'aimer, c'est le servir, c'est vivre en communion avec lui. Et c'est pas facile. André le disait aussi tout à l'heure, hein, on a tellement de choses à faire, on a tellement peu de temps disponible. Être en communion avec Dieu, ça demande du temps. Là, je suis en train de faire le TQP, donc la première leçon, là, hier, j'étais justement sur le petit livre de Derek Prince qu'il faut lire. Je suis contente, j'ai lu en entier, ça y est. Et il disait, ben voilà, passer du temps en communion avec Dieu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande de la tranquillité, si j'ai bien retenu ma leçon, de la tranquillité et du temps. Et c'est pourtant important, c'est notre appel. Être fils et fille de Dieu, lui obéir, lui être fidèle, et on pourrait rallonger la liste. Se rappeler de notre appel, parce que dans la vie, finalement, on se trouve englouti par plein de choses. La famille, le travail, les amis, les loisirs, et on oublie, attention, je ne suis pas là pour que ça. La famille, le travail, les amis, les loisirs, etc. Basique, c'est aimer Dieu, le servir, être en communion avec lui, être des filles, des fils et des filles de roi, obéir à Dieu, lui être fidèle, etc., etc. Et c'est important de s'en rappeler, parce qu'on peut très très vite dévier. Le vent souffle fort. Alors, c'est un pasteur indien que je traduisais souvent quand j'étais plus jeune, qui disait qu'une fois, il était au bord de la mer et il priait. Donc c'était une longue étendue de sable, très très large. Et le vent soufflait extrêmement fort. Mais bon, il aimait bien prier en marchant. Il voulait peut-être s'endormir. Et donc, il marchait au début face au vent. Et puis, au bout d'un long moment, je ne me souviens plus combien de temps, comme il se protégeait un petit peu du vent instinctivement, il s'est retrouvé à avoir fait un demi-tour complet et être dans l'autre sens. Les yeux fermés, en priant, il n'avait pas fait attention. Parce qu'il résistait au vent, et progressivement, il a eu le vent de côté, puis de dos, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait carrément fait demi-tour. Et malheureusement, souvent, c'est un petit peu comme ça dans la vie aussi. La pression, le temps, on le subit tous, surtout en région parisienne. Le temps, les différentes choses à faire, la famille, les amis, les devoirs, le travail, etc. Et petit à petit, on ne se rend pas compte, mais on perd la notion de notre appel. Et c'est bon de se le rappeler. C'est pour ça, je pense, que Samuel revient deux fois là-dessus. Qui tu es? Qui est Dieu? Quel est ton appel? Et quelle est ta mission? La mission ponctuelle, c'était, tu vas faire la guerre, on va se débarrasser de ces gens d'une grande cruauté, etc. Et là, nous, notre mission, c'est faire des disciples. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, etc. Faites de toutes les nations des disciples. Pas du prosélytisme, mais des disciples. Alors, dans les moments difficiles ou dans les moments de gloire, les moments de victoire, c'est un bon de se rappeler qui on est, qui est Dieu. Ça permet de rester dans la foi et dans l'humilité. Et c'est ça qui faisait défaut à notre pauvre Saül. Comme il avait oublié ça, l'humilité, elle était loin, loin derrière. Ça nous permet de rester dans la soumission, dans l'obéissance à Dieu. Même si, et c'est ça qui est un peu difficile dans la vie chrétienne, d'un sens, Dieu nous donne son autorité. Dieu nous donne l'autorité du Saint-Esprit. Mais il faut quand même rester dans l'humilité. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à tenir entre qui je suis de par ma nature humaine, voilà, et qui je suis en Christ. Ah ah. D'un côté, je suis très limitée, et voilà. Et de l'autre, voilà, j'ai tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'influencer notre brave Saül. C'est triste. Il a même le culot, après avoir entendu donc deux fois qui tu es, qui est Dieu, etc. Eh bien, il a le culot de répondre: j'ai bien écouté le Seigneur et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. Et vous savez, j'avais fait remarquer la dernière fois qu'il glisse un mensonge entre trois vérités. Il glisse une désobéissance entre trois vérités. Hein, j'ai bien écouté le Seigneur, j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé jusqu'à un certain point. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Ça, c'était interdit. Mais il le glisse entre deux. J'ai tout fait bien et j'ai amené Amalek. Et puis voilà, hein, il est malin. Et j'imagine que Samuel, là, il craque. Parce qu'en plus, il va continuer à accuser le peuple. Mais le peuple, ah oui, voilà ce peuple, théoriquement, c'était lui le roi. Hein, mais le peuple a pris sur le butin du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème afin de les sacrifier au Seigneur, ton Dieu. Je l'avais dit la dernière fois, j'aime pas trop ça. Samuel, il n'en peut plus. Il n'en peut plus du tout. Trop, c'est trop. Il a tout essayé. Il a pleuré, il a prié, il lui a tendu la perche et retendu la perche. Il lui a répété qui il était, etc. Il n'y a plus rien qui passe. Et ça, c'est terrible. On va voir que Samuel, il va pas s'en remettre. Parce que il a vécu les problèmes avec Élie quand il était enfant et avec les fils d'Élie. Et il se retrouve avec le roi qu'il a nommé, le roi qui lui a succédé, à qui il a délégué le pouvoir, etc. Pratiquement la même chose qu'avec Élie et les fils d'Élie. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. L'obéissance à Dieu, peu importe. Alors là, il craque. Mais il commence pas tout de suite par la sentence. Hein. Vous voyez, quand même, c'est quelque chose qu'il a du mal à arracher ça. Hein. Parce que depuis le début, il lui dit, bon, maintenant, ça va, hein, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Au lieu de ça, il pose plein de questions. Hein, et il n'y va pas encore tout de suite. Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ? Question. Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Réponse. Prêtez attention vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut le péché de divination et la résistance vaut le secours illicite au théraphim. Le théraphim était utilisé pour trouver la volonté de Dieu dans certaines occasions, mais on n'avait pas le droit de l'utiliser personnellement. Et c'était seulement pour le peuple et dans certaines occasions, etc. C'était très réglementé. Donc là, il parle du recours illicite au théraphime. Il va d'abord lui dire clairement où est-ce qu'il en est et que ces beaux sacrifices-là qu'il veut faire avec des animaux, qu'on avait dit la dernière fois, hein, qui n'étaient pas autorisés, un animal qui avait été sur lequel il y avait l'anathème, hein, l'interdit, ne devait pas être sacrifié à Dieu. Donc, ce genre de sacrifice, ça n'allait pas loin. Mais même si ça avait été un bon sacrifice, il rétablit clairement les choses, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la dernière fois, on avait terminé en lisant, je me souviens, tout un tas de textes. J'ai la liste si jamais vous la vouliez. Donc Ésaïe 1, Amos 5, Proverbe 21, Jérémie 7, Michée 6, etc. C'est un thème qui va être repris tout au long de la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, Matthieu 9, Matthieu 12. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, enfin, il va donner la sentence. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi, tu ne seras plus roi. Ça lui arrachait les tripes, hein, de dire ça. On sent qu'il a tout fait jusqu'au bout. Il lui a tendu la main. Et ça n'a pas marché. Saül était bloqué. Je ne comprends pas d'ailleurs à quel point il était bloqué comme ça, alors qu'il aimait beaucoup Samuel. C'est bizarre. Mais Dieu aussi souffre, et Dieu aussi tend les bras, comme je disais tout à l'heure, et il est prêt à recevoir celui qui reconnaît ses fautes. L'homme, parfois, lui, refuse de pardonner. Ça arrive, hein, même des chrétiens qui refusent de pardonner. Je me souviens même quelqu'un qui pratique pas trop, mais qui croit en Dieu, qui me disait un jour, fièrement, « Moi, il y a des choses que je ne pardonne pas. » Bon, difficile, pas évident, hein. Mais voilà, ça arrive. Mais Dieu, lui, est toujours prêt à pardonner. Jésus a donné sa vie pour ça, et ça a été vraiment, j'ai insisté là-dessus, une douleur pour Dieu comme pour Samuel, de voir ce roi qui avait si bien commencé, qui s'enfonce dans l'auto-justification. Il a toujours réponse à tout ce qu'on lui dit. « Mais j'ai bien fait les choses !»« Mais oui, mais c'est pas moi, c'est le peuple, c'est l'autre !» Et il va refuser la main tendue de Dieu et celle de Samuel. C'est bizarre quand même. Alors, quand on lit le texte et qu'on s'arrête là, on peut se dire... Il n'était pas conscient, le gars, c'est pas possible, quoi. Il voit pas venir, ou... Mais c'est pire, c'est ce qui suit. C'est pire quand on lit ce qui suit. Parce que... Samuel lui explique, la dernière explication aurait dû le décider, l'acte religieux, le don ou le sacrifice, le rituel, le geste religieux, symbolique ou autre, n'a de valeur que si c'est le reflet d'une réalité dans le cœur. Et... C'est le reflet d'une réalité de quelqu'un qui écoute et obéit au Seigneur. Et c'est vrai pour le baptême, par exemple. On peut prendre le baptême. J'ai vu des gens prendre le baptême. Mais s'il n'y avait pas la réalité du salut dans le cœur, qu'est-ce que ça change? C'est un geste. Mais ça ne change rien à la vie des gens. C'est un geste extérieur. Si ça ne reflète pas une réalité qui était là, le passage de la mort à la vie, la nouvelle naissance, le témoignage d'une vie qui a été transformée par Dieu, ça ne va rien donner. C'est pareil pour la dîme et les offrandes. Je peux donner à Dieu, mais si je le fais sous la contrainte ou si je le fais pour m'assurer mon salut, voilà. Même le fait de venir à l'église. Je parlais tout à l'heure avec les jeunes en bas en disant, mais on peut chanter et louer chanter les louanges de Dieu le dimanche, mais si notre cœur n'est pas dedans, c'est dommage. C'est dommage. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'est-ce qui est dans notre cœur. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui a fait beaucoup de tort au christianisme. La Bible le dit, hein, ces gens qui ont toute l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Hein, c'est 2 Timothée 3,5. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est quand c'est vraiment vécu dans le cœur. Quand c'est vécu à 100% dans le cœur. Que ce n'est pas juste un geste extérieur. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les gestes extérieurs. Hein. Attention. Les sacrifices, c'était une ordonnance. Mais il ne veut pas qu'ils soient offerts à la place de l'obéissance. Seigneur, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, puis je vais t'offrir des sacrifices. C'était ça en fait. Hein. J'ai décidé de faire ce que je veux, mais je vais t'offrir des sacrifices. Ça passe pas. Dieu n'est pas dupe. Ça ne peut pas être un substitut à une relation personnelle avec Dieu. Et c'est comme ça que naissent les religions. Et je pense que les évangéliques, on n'est pas à l'abri. Très vite, on peut développer un rite, aller au culte le dimanche, faire ceci, faire tel geste, donner sa dîme, etc. Enfin bon. Et puis, oublier que ce qui compte, c'est ce que je vis dans mon cœur, ce que je vis dans la semaine avec le Seigneur. Autrement dit, le culte spirituel est supérieur au culte cérémonial. C'est pas moi qui écris ça, mais je trouve que c'était bien dit. Dans des sacrifices, c'est la chair des animaux qui est sacrifiée. Dans l'obéissance, c'est notre volonté qui est sacrifiée. Ouh, ça, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Notre volonté sacrifiée, ça, c'est très, très désagréable. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre le verset qui dit que la rébellion vaut la divination, c'est-à-dire la magie, quoi. Se rebeller, désobéir à Dieu, c'est exactement comme si on faisait de la magie. Oh, quand même, on va dire non, quand même. Oh, non, c'est pas la même chose. Ben, quelque part, oui, parce que ça veut dire que l'homme veut dépasser les connaissances et l'action humaine, et pour cela, il rentre dans un chemin qui est interdit par Dieu. Il veut aller au-delà de ce que Dieu lui a permis. Et quand on désobéit, on va au-delà de ce que Dieu a permis. Et du coup, il faut faire attention aussi à la recherche du surnaturel, au lieu de chercher Jésus. Quand on cherche Jésus, on va forcément rentrer dans un chemin de surnaturel. Mais rechercher le surnaturel, ça c'est dangereux. C'est le même principe, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La personne qui va faire la divination, elle veut s'approprier quelque chose que Dieu s'est réservé. Connaître l'avenir, etc. Ça, c'est... Les choses cachées sont à l'éternel. De la même façon, la désobéissance se met au-dessus de la volonté de Dieu. Celui qui s'oppose à Dieu se détache de Dieu et fait du diable son Dieu. Donc, ça se rejoint. Effectivement, quand on réfléchit. Sur le coup, ça choque un petit peu, mais effectivement, quand on voit que c'est une question de volonté, hein, ma volonté passe avant celle de Dieu, c'est exactement Saül, hein. Bon, allez, il fallait que j'attende le sacrifice, mais moi, j'ai décidé que je peux le faire. Allez, c'est réglé. Après, oui, Dieu avait dit qu'il fallait tout exterminer, mais bon, allez, le peuple, ça lui fait plaisir, donc je le laisse faire. Et puis, voilà, on garde les beaux animaux, les plus beaux, les autres, on obéit à Dieu, mais pour ce qui est difficile, on fait notre choix à nous. On met sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Donc c'est dangereux. Ça fait peur d'ailleurs, hein. Parce que combien de fois est-ce qu'on est tenté de dire, oui, Seigneur, ok, mais moi... Mais moi, je pense, ou mais moi, j'ai envie de faire ça ou ça. Et bah, c'est l'image d'Adam et Ève, hein, qui ont remis en doute l'ordre de Dieu. Ils ont fait leur volonté. Ils ont placé leur volonté au-dessus de celle de Dieu. Et à cause d'eux, on est dans le pétrin. Moïse, hélas, Moïse, c'est quand même un modèle. On ne lui arrive pas au petit doigt de pied, Moïse. Et pourtant, il y a un moment où, quand il a fallu parler au rocher, où il n'a pas écouté. Lui, il a tapé. Parce que la dernière fois, c'était comme ça, et puis voilà. Puis il y en a assez. Je pense qu'il y avait quand même une révolte dans son cœur. On peut le comprendre, d'ailleurs. Mais voilà, il n'avait pas fait ce que Dieu lui a dit. Il a fait ce qu'il avait envie, ce moment-là. C'est chaud, hein? C'est là qu'on voit, parce que souvent, moi, quand j'étais petite et que je lisais ce texte, je me disais « Oh, mais qu'est-ce que Dieu est sévère, mais il l'avait fait la dernière fois, pourquoi est-ce qu'il le gronde là, pourquoi est-ce qu'il va le punir, c'est juste bon, taper au lieu de parler au lieu de taper. Oh. » Mais je pense que, bon, ça c'est pareil, hein, le texte ne nous explique pas forcément tout, mais je pense que ce jour-là, Moïse en avait un petit peu ras-le-bol et il a mis sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Bon, moi j'ai décidé, et puis pouf, ras-le-bol, et puis j'y vais, hein. Je caricature peut-être un petit peu, mais pour que Dieu soit aussi sévère, c'est que ce n'était pas seulement un oubli. Certainement, je ne pense pas. Saül va mettre sa volonté au-dessus de celle de Dieu, on l'a vu. Après tout, je suis le roi, je fais ce que je veux. Et du coup, il ne pouvait plus être l'instrument de Dieu pour gouverner le peuple de Dieu. C'est ça le problème aussi. Alors là, on a un gros problème. Et c'est là qu'on voit que Saül, il était conscient. Vous savez, souvent, on se pose la question. C'est conscient ou c'est pas conscient, la désobéissance? Oh, ben, je n'ai pas fait attention, j'ai désobéi à Dieu. Ah, on se pose souvent cette question, conscient ou pas conscient? Mais là, on ne peut pas se tromper. Quand Samuel lui dit, il te rejette aussi, tu seras plus roi. Ça y est, il l'a enfin sorti, ça lui a arraché les tripes, mais il l'a dit. Alors Saül dit à Samuel, verset 24, j'ai péché. Oh, ben tiens, d'un seul coup, il se rend compte. Comme s'il ne se rendait pas compte avant. Vous avez vu ça? J'ai péché. Et il va même jusqu'au bout. J'ai passé outre aux ordres du Seigneur et à tes paroles. Autrement dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, comme le fils prodigue. Mais il est un peu tard pour dire ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il a entendu la sentence. Tu ne seras plus roi. Tant que c'était son fils qui ne serait pas roi. Après tout, j'ai l'impression qu'il ne l'aimait pas trop, Jonathan. Hein. On verra ça l'année prochaine, mais j'ai l'impression que, bon, t'es un peu jaloux et tout. Donc, c'était pas grave. Son fils serait pas roi, bah tant pis, c'est ses oignons. Mais moi, je serais plus roi. J'ai péché. J'ai passé outre aux ordres du Seigneur et à tes paroles. Qu'est-ce qui fait réagir Saül? Le châtiment. Aïe, aïe, aïe. C'est pas l'amour de Dieu. C'est pas toutes ses mains tendues, toutes ses perches qu'il lui a tendues en lui disant qui il était, qui était le Seigneur, toutes ces questions qu'il a posées. Pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Toutes ces questions-là, il a laissé passer. Non, non, j'ai tout fait bien. Ouh, moi j'ai tout fait bien, moi j'ai tout fait bien. Puis d'un seul coup, il dit, bah écoute, on a tout fait, hein, tu seras pas roi. Oh, j'ai péché. Ah, il n'y a que le châtiment qui l'a fait réagir. Et pas forcément le châtiment, mais l'idée de perdre ses privilèges. Mais il aurait pu commencer par là. Hein. Imaginez que dès le départ, si on refaisait l'histoire, quand il voit arriver Saül, au lieu de lui dire, comment il le salue là, « Béni soit le Seigneur !» Quand Samuel arrive, s'il avait dit « J'ai péché, j'ai désobéi à tes ordres », ça ne se serait peut-être pas passé de la même façon. Mais il a attendu d'avoir le nez dedans, complètement. C'est fou. Il aurait pu éloigner le châtiment. Il savait visiblement se repentir, hein. C'est clair, j'ai péché, j'ai passé outre aux ordres du Seigneur et à tes paroles. Il n'oublie rien. Tout ce qu'il fallait dire, il le dit. Donc il sait le faire. Parce qu'au début, je me disais, oh, ben, il ne savait peut-être pas trop comment faire. Ben, il savait. Il aurait pu éloigner le châtiment. Il savait bien se repentir. Et là, c'est marrant, mais c'est plutôt Dieu, hein. J'ai passé ordre aux ordres du Seigneur. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça en l'original, mais en tout cas, dans la traduction, on ne parle plus de ton Dieu, mais le Seigneur. Bon, il s'exprime clairement, avec vérité. Il aurait pu le faire dès le début. Par contre, il continue à accuser le peuple. Je craignais le peuple. Il arrive à se repentir, mais quand même, il ne faut pas trop, hein, pas trop abuser quand même. Hein, pas trop aller loin. Le peuple aussi, il a sa responsabilité. Hein, je ne suis pas tout seul dans le pétrin, là. Mais il était roi. Chef des tribus, il avait une autorité, il pouvait l'utiliser. C'est marrant, il l'utilisait pour d'autres choses, mais pas pour diriger le peuple. Donc, je craignais le peuple et je l'ai écouté. J'ai écouté le peuple. Alors là, on va lire la suite. Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi. » Oui, parce qu'il lui dit, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant le Seigneur. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur te rejette. » Il lui redit exactement ce qu'il lui a dit plus haut. Donc, il se répète. « Tu ne seras plus roi sur Israël. » Il reprend exactement la même sentence. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « Le Seigneur déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » La majesté d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret. Ce n'est pas un être humain pour qu'il ait du regret. Et Saül dit encore, « J'ai péché. » Maintenant, je te prie, et c'est là qu'on coince encore. J'ai péché, on dit, c'est bien. Il reconnaît sa faute. Peut-être il est engagé dans la bonne voie. Tu parles. Maintenant, je te prie, honore-moi. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Saül dit, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi. Ça fait drôle hein, quand on le dit comme ça. J'ai fait une grosse bêtise, mais maintenant, félicite-moi. J'ai complètement été à côté de la plaque, mais surtout, tu me rends honneur. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, là. Ça veut dire qu'il a réagi au châtiment, mais c'est tout. Il n'y a rien derrière. Tout ce qu'il cherche, c'est l'apparence. Les sacrifices, plus que le cœur. On est dedans, plus que l'obéissance. Et là, on est encore dedans. On voit le bonhomme, depuis le début, on s'aperçoit que ça grandit chez lui. Les apparences plus que la réalité. Le sacrifice plutôt que l'obéissance. J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi. Moi, quand on lit ça tout seul, ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Est-ce qu'il se repent vraiment? Eh ben non, malheureusement. Non seulement il a continué à accuser le peuple, mais il continue à vivre pour ce qui est extérieur. Tout ce qui est extérieur est plus important que l'horreur de son péché. Et ce que Dieu veut quand on se repent, c'est pas qu'on dise « Oh là là, j'ai péché, ça m'a créé des problèmes, Seigneur, pardonne-moi. » Mais c'est de dire « Seigneur, je me suis planté, j'ai péché, j'ai horreur et j'ai pas envie de recommencer. » C'est ça qu'il attend. « Ça ne me plaît pas ce que j'ai fait. Je regrette, c'est horrible, j'ai vraiment pas envie de recommencer ça. » C'est ça qu'il attend. C'est pas « Allez, ok, je reconnais que j'ai péché, tout va bien entre nous. » Honore-moi. Vous imaginez, mais comment il a eu le culot de dire ça? Tellement humain. Samuel est effectivement extrêmement déçu. Et il lui dit, je ne reviendrai pas avec toi. Et il va se détourner et répéter la sentence, on l'a dit tout à l'heure, mais il est tellement attaché à ce que Samuel soit avec lui. Pourquoi? Parce que Samuel était respecté. Parce que tout le peuple respectait Samuel. Le peuple avait peur de Samuel. Il avait une crainte comme celle de Dieu un petit peu, c'était l'ambassadeur de Dieu pour eux. Hein. Donc, si Samuel était là, le peuple était tranquille. Si Samuel était près du roi, tout allait bien. Mais si Samuel se détournait, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passait et le peuple rentrait dans la panique, dans l'angoisse. Et ça, il le savait très bien, Saül. Hein. Il savait très bien que sa royauté n'était pas personnelle, mais qu'elle venait de Dieu au travers de Samuel, qui était son instrument. Donc, le manteau va se déchirer. Il s'accroche au manteau. Et le manteau se déchire. Alors, suivant les traductions, c'est Samuel qui coupe le manteau parce que l'autre ne veut pas lâcher de prise. Ou ça s'est déchiré, on ne sait pas très bien. Peu importe, en tout cas, il se déchire. Et c'est un geste que, en tant que prophète, évidemment, Samuel ne va pas louper, le geste prophétique. Et il va tout de suite lui expliquer, de la même façon dont ce manteau se déchire, la royauté est déchirée définitivement pour toi et pour tes successeurs. Et cette fois, Samuel, c'est là qu'il va être encore plus insistant et plus précis, parce que la vraie raison, ce n'est pas la repentance, et le désir profond de revenir à Dieu de tout son cœur, et de témoigner publiquement de sa soumission à Dieu en se prosternant devant Dieu, aux yeux de tous les anciens du peuple. Non, j'ai péché, c'est très bien, mais la suite est plus gênante. Hein? Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple. Aïe, aïe, aïe. Je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi. Et je me prosternerai devant le Seigneur, et c'est de nouveau ton Dieu. Il est prêt à tout, pourvu que les apparences soient préservées. En fait, une rupture publique avec Samuel aurait certainement miné son autorité royale. Oh, Samuel est fâché avec Saül, dis donc, il y a de l'eau dans le gaz, hein, ça ne va pas. C'est lui quand même qui avait donné l'onction. Donc s'il quittait Saül, le message était clair pour le peuple. Danger. Abandonné par Samuel, il perdait beaucoup de sa crédibilité parmi les anciens du peuple et des troubles auraient pu apparaître. Et c'est là qu'on est étonné de la réaction de Samuel. C'est là aussi qu'on voit son cœur, pas seulement pour Saül, mais aussi pour le peuple. Ces gens-là avaient toujours présent à l'esprit leur appel et leur mission. Il aurait pu, parce qu'il était écœuré, là, il n'en pouvait plus, je suis sûr qu'il avait mal au ventre. Déjà qu'il n'avait pas dormi de la nuit, de voir que toutes les perches tendues n'avaient rien donné, que ce gars s'obstinait dans son auto-justification, qu'il se repentait juste parce qu'il était châtié. Je crois qu'il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus. Mais malgré ça, il se rappelle de son appel et de sa mission. Prendre soin du peuple, être un ambassadeur de Dieu. Et il s'est dit, visiblement, je ne peux pas partir. D'accord, on va garder les apparences, mais je ne peux pas mettre le souk dans le pays. Samuel revint et suivit Saül, et Saül se prosterna devant le Seigneur. Il le suit quand même. Et je me suis demandé, j'ai dit, mince, pourtant il était en colère. Ben oui, il agit avec sagesse parce qu'il ne veut pas troubler l'ordre public et entraîner des soulèvements dans le peuple ou des divisions parmi les anciens. Saül est encore roi. Ça ne s'est pas fait immédiatement qu'il a été rejeté. Il le sait qu'il est rejeté, mais il a attendu que ce soit Dieu qui fasse le travail. Il va donc l'accompagner. Par contre, il va remettre les choses en ordre. Puisque toi, tu ne l'as pas fait, moi je vais le faire. Il va tuer Agag. Il n'est pas question qu'il se serve d'Agag pour demander une rançon ou pour se balader en triomphe dans les rues, comme j'avais expliqué la dernière fois. Pas question qu'il se serve d'Agag. Ça, c'est... Il ne voulait pas. Donc il va faire le travail lui-même. Autrement dit, il a tellement de souffrance dans son cœur devant Dieu qu'il dit, bon, toi, tu ne l'as pas fait, mais moi, je vais le faire parce que Dieu l'a demandé. Moi, j'ai le respect de Dieu. Toi, tu ne l'as pas, c'est ton problème, mais moi, je vais le faire. Et puis, devant le peuple aussi, le peuple était au courant que ça n'avait pas été fait et je pense que certains devaient se poser la question. Donc, il agit avec sagesse, ne pas troubler l'ordre public, pas entraîner des soulèvements dans le peuple ou des divisions parmi les anciens. Il accomplit l'ordre d'extermination. Par contre, et c'est ça, je vais terminer là-dessus. J'aime bien la façon dont il va tuer Agag, d'ailleurs, ou le faire tuer, parce que le texte dit qu'il l'a tué, mais ce n'est pas impossible que ce soit des soldats qui l'aient fait pour lui. Mais par ton épée, des femmes ont perdu leurs enfants, ta mère aussi va perdre le sien, et Samuel mit en pièces Agag devant le Seigneur au Gilgal. Voilà, c'est clair. La Bible dit que le roi d'Amalek pensait que c'était fini pour lui, qu'il allait être sauvé, mais non. Samuel a obéi à ce que Dieu avait demandé. Verset 34. Samuel partit pour Rama et Saül monta chez lui, à Gibéa de Saül. Donc chacun va de son côté. Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, et c'est ce verset qui m'a touchée, Samuel menait deuil sur Saül. Quant au Seigneur, il regrettait d'avoir investi Saül de la royauté sur Israël. Alors attention! Quand on dit « Dieu regrette » dans la Bible, c'est le langage des apparences. C'est pas « Ouh, j'ai gaffé, je regrette ». Non, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus « J'ai changé d'avis ». Finalement, voilà, on va faire autrement. Mais c'est Dieu qui souffre. Le mot hébreu, paraît-il, a une notion de souffrance. Il souffre de voir que toutes les perches tendues n'ont pas marché, que Saül n'a pas obéi. Et chaque fois qu'on n'obéit pas à Dieu, je pense que c'est mieux de se dire « Il souffre ». Parce que c'est la vérité, plutôt qu'il est là avec son bâton. Il souffre. Et là, on le voit, il regrette. Et franchement, le mot hébreu est clair. C'est la souffrance. Alors bon, c'est le langage des apparences. Comme la Bible aussi dit que le soleil se couche. Tout le monde sait que c'est pas... Dieu sait très bien que c'est pas vrai. C'est le langage que les hommes utilisent. Nous aussi, on l'utilise d'ailleurs. Pourtant, on sait que c'est pas vrai. Donc, c'est le langage des apparences. Mais il y a cette notion de souffrance très forte. Donc d'un côté, on voit... Samuel qui ne va plus revoir Saül, mais Samuel menait deuil sur Saül. Quant au Seigneur, on pourrait dire qu'il souffrait d'avoir investi Saül. Il souffrait parce que c'est conditionnel, les promesses de Dieu. Certaines promesses sont conditionnelles. Il y en a qui ne sont pas conditionnelles, mais il y en a qui le sont. Et là, c'était conditionnel. Rappelez-vous, les conditions avaient été données par Samuel. 1 Samuel 12, 25. Si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Là, c'était le roi. Donc les conditions étaient là, il a désobéi. Et il y a une souffrance chez Dieu, c'est clair. Dieu est parfait, mais la souffrance, il connaît. Et une énorme souffrance chez Samuel aussi. Samuel menait deuil sur Saül. Et on va parler de ça la prochaine fois. On a nous aussi cette même liberté de ne pas obéir à Dieu. On l'a encore. C'est pourquoi il est écrit, et j'aime beaucoup ce verset, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est Luc 15, verset 7. Et ça m'a parlé, ça, parce que j'étais un peu triste quand j'ai fait ça. J'ai dit, oh, tout tourne au sur, là, c'est bas. Et j'ai pensé à ce verset, la joie, parce que lui, il est dans le deuil, la joie. il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Ah ! Donc la joie est liée à la repentance, la joie dans le ciel. Et donc j'ai raison quand je dis que Dieu souffrait et qu'il était triste de voir qu'il n'avait pas accepté. Parce que la repentance, c'est un sujet de joie pour le Seigneur. Et le diable s'est arrangé pour que ce soit triste et nul. Ah, il faut se repentir, et puis on prend le sac et la cendre. Mais c'est un sujet de joie pour le Seigneur. Enfin, il est revenu à la raison. Vous imaginez si Saül avait commencé en disant, dès qu'il a vu Samuel, « J'ai péché, j'ai pas écouté tes paroles. » La joie qu'il aurait eu dans le cœur de Samuel, dans le cœur de Dieu. Hein? Et il ne faut pas voir la repentance comme quelque chose de triste, c'est un sujet de joie. Et chaque fois que j'ai vu des gens se repentir, alors c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de pleurer parce que ça vous prend quand même. Quand c'est une repentance sincère, c'est extrêmement beau, mais c'est des pleurs de joie. Je pense que je dois faire appel à certains de vos souvenirs les uns les autres. Vous avez vu quelqu'un qui s'est repenti. Oh, on pleure, mais on pleure de joie. Et c'est vrai qu'on ressent ça. Ouah, il a pris le bon chemin. Ouah, il va être béni. Ouah, sa vie va changer. Sa famille va changer. Ouh, même le chien va être plus heureux. Et oui, parce que la repentance, c'est un sujet de joie. Et il y en a marre de voir la repentance comme chose de triste. C'est pas vrai. Moi, chaque fois que j'ai vu quelqu'un se repentir, oh, j'avais plutôt envie, comme Moïse, d'enlever mes chaussures et dire « Je suis sur une terre sainte. Je suis sur une terre sainte. » Ça vous prend, là. Une vraie repentance, c'est « Je comprends que le ciel se réjouisse. C'est beau. » Et notre refus de repentance est forcément un sujet d'affliction. Mais Dieu, ceci étant, respecte notre liberté. Donc, ayons donc à cœur de réjouir le cœur du Seigneur en demandant pardon. Et laissons de côté toute religiosité, le souci des apparences. Restons petits à nos yeux. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichira. Amen.